Émission spéciale sur Radio Grenouille à l'occasion de l'ouverture du Pavillon Noir à Aix-en-Provence, le centre chorégraphique national qui accueille Angèle Preljocage et les ballets Preljocage. Donc on va passer une petite heure en compagnie d'Angèle Preljocage qui est chorégraphe bien sûr et directeur de ces ballets, de ce centre chorégraphique national, Nicole Saïd qui est directrice déléguée du Pavillon Noir, Christophe Aleb qui est chorégraphe, ancien danseur des ballets Preljocage, Sylvain Groux est également chorégraphe et également ancien danseur des ballets Preljocage, et David Colla qui nous rejoindra dans une dizaine de minutes. David Colla qui est un danseur de la compagnie Franck de Louise et qui depuis peu s'est mis à la chorégraphie et vient ici à l'occasion de l'inauguration du Pavillon Noir pendant 4 jours proposer un extrait de sa dernière création. Alors Angèle Preljocage, Nicole Saïd, on va commencer avec vous pour raconter un peu cette aventure du Pavillon Noir. Donc après le 8-10 rue des Allumettes, vous êtes maintenant au 530 avenue Mozart, ça change tout, non ?
Non, c'est bien parce qu'on est au croisement de Mozart et des Allumettes et on pense qu'on va mettre le feu avec tout ça, c'est surchauffe là.
Alors l'inauguration a commencé depuis hier, depuis vendredi, pardon. Je précise que cette émission est enregistrée le samedi mais qu'elle est diffusée dimanche. Donc inauguration commencée vendredi qui s'achèvera lundi. Pourquoi une inauguration sur 4 jours ?
Parce que d'abord c'est un lieu qui n'est pas si énorme que ça en fait. D'ailleurs d'où le nom de Pavillon Noir, parce que un pavillon c'est un édifice de taille moyenne, c'est pas l'Opéra Bastille ici, il faut le savoir. Donc c'est un pavillon, donc comme il y a le pavillon Vendôme ou le pavillon L'Enfant, donc historiquement ça s'inscrit dans l'histoire de l'architecture. Sauf que c'est le Pavillon Noir, donc c'est un pavillon du 21e siècle. Et donc comme c'est un lieu de taille moyenne, pour recevoir tous les gens d'abord qu'on aime et puis tous les gens qui s'intéressent à l'art chorégraphique, on a senti très vite la nécessité d'étendre ça à plusieurs jours, à une petite semaine même disons, cette inauguration pour satisfaire un maximum de désirs. Voilà.
Alors Nicole Saïd, j'imagine que vous avez participé grandement à la programmation de cette inauguration. Comment vous avez élaboré en fait ces 4 jours ?
Ce qui nous semblait très important, c'est de permettre à tous les artistes qui nous ont aidés à édifier cette compagnie, qui nous ont accompagnés pendant ces 20 ans, d'être présents. À la fois parce que c'est aussi grâce à eux que ce lieu existe, et parce que chacun vit sa vie maintenant, et que c'était aussi important qu'on puisse présenter leurs travaux.
Comment ils ont été interpellés ? Parce que là, tout le monde présente, en fait, il y en a quoi, une dizaine qui présentent des petites formes, c'est ça ? Quelle a été l'interpellation en fait ?
Qu'est-ce que vous voulez dire ?
Vous leur avez demandé de venir présenter une petite forme ?
On leur a demandé d'être avec nous pour ce moment fort qui nous semblait essentiel et symbolique et qu'on ne voulait pas qu'ils ratent.
Alors,
juste une chose, je voudrais juste préciser qu'il n'y a pas que des transfuges du ballet Preljocage. Hein, il y a des gens extérieurs qui n'ont rien à voir, mais dont on respecte et on aime le talent.
Tout à fait. D'ailleurs, David Colla en est un exemple, mais il y a aussi Georges Apex et d'autres. C'est aussi l'occasion pour vous de présenter les 4 saisons, qui a pas été trop présentée en fait, dans la région.
Ben oui, très peu. À Aix, en tout cas, jamais. Et je voulais commencer plutôt avec une pièce solaire et de l'ordre du jaillissement, du plaisir, de la joie, plutôt que commencer par Haine, par exemple, qui est une pièce un peu trop dure, je crois. Déjà que le pavillon est noir, alors si on en rajoute une couche avec Haine ou un spectacle qui serait plus dur, violent, ou voilà, c'était... Voilà, on voulait commencer par une fête, quoi. On voulait que ce soit une grande fête.
Alors, disons deux mots de ce spectacle, parce qu'il se trouve qu'il y a Fabrice Hibert qui a participé à cette création, qui est quelqu'un qui est très connu dans l'art contemporain. Donc, vous êtes là dans le fil de vos collaborations avec des gens qui sont hors monde de la chorégraphie. Comment s'est fait la rencontre ? Pourquoi vous avez interpellé Fabrice Hibert ? C'est quelqu'un dont vous appréciez le travail ? Et comment s'est fait
quelqu'un dont j'appréciais le travail de toute manière, par ailleurs. J'avais vu plusieurs fois ses travaux et j'aimais bien les POF, donc les prototypes d'objets en fonctionnement, qui sont des objets qu'il met dans les musées et qui interrogent le comportement humain quotidien et qui requestionnent donc nos habitudes. Alors, une fois ça dit, quand j'ai commencé à travailler sur l'idée des quatre saisons, au départ, j'ai pensé un peu naïvement travailler avec quelqu'un qui fait du land art ou quelqu'un qui travaille avec de la biologie ou des choses qui sont liées à la thématique du spectacle, vraiment des quatre saisons ou un météorologue ou des trucs comme ça. Et puis après, je me suis dit, non, mais c'est complètement stupide, c'est trop redondant. Il vaut mieux prendre quelqu'un justement qui va complètement décaler les choses et qui soit. Et j'ai pensé donc à Fabrice Hibert. Et finalement, ça fait un peu sens parce que avec ces POF, ces prototypes d'objets en fonctionnement, il arrive vraiment comme l'imprévu. Et je trouve que le temps, la météo, les saisons, c'est toujours imprévu. On veut aller pique-niquer, il fait beau, on part le matin, on pose la nappe dans les bois et tout à coup, il se met à pleuvoir. Voilà. Et ben Fabrice Hibert, c'est ça. C'est l'orage qu'on n'attendait pas, c'est le coup de vent auquel on ne se préparait pas. Et donc voilà. Et durant toute la pièce, c'est comme ça. Il y a des objets qui tombent du ciel, enfin du plateau, du haut du plateau, et qui réinterrogent les danseurs et qui réinterrogent les mouvements des danseurs. Parce que, évidemment, dès qu'on introduit des corps étrangers dans un studio de danse, il se passe des choses différentes avec les corps.
Hein. Alors, Fabrice Hibert a fait les décors et les costumes. Est-ce que c'est lui qui a amené cette dimension de malice ? Alors, moi, j'ai vu quelques-unes de vos pièces, mais c'est pas loin de les avoir vues toutes. Et il me semblait que cette dimension malicieuse n'est pas quelque chose qui vous est très familier dans vos créations.
Oh, ça m'arrive d'être assez déconnant quand même. Hein. Ouais. Mmh. Ça, je peux le faire. Hein. J'ai fait des pièces où on s'est vraiment pissé de rire dessus. Alors, comme je vous disais, évidemment, il y a des choses beaucoup plus graves qui sont importantes. Et je crois que quand on est un artiste contemporain en prise avec le monde d'aujourd'hui, on ne peut pas ne pas se faire l'écho d'atrocités ou d'incohérences de l'humanité. Donc, évidemment, ça existe. Mais franchement, faut aussi prendre le temps de vivre, le temps du plaisir, le temps de l'amour et toutes ces choses, il faut le prendre et il faut essayer d'en redonner un peu, disons, quelques échantillons gratuits.
Là, c'est un peu du côté d'une malice presque enfantine, hein, avec ces gros soleils peints.
Oui, c'est comme si on avait amené un gros coffre d'un grenier, puis qu'on disait, bon, allez, qu'est-ce qu'il y a là-dedans et qu'est-ce qu'on fait avec, voilà.
Et c'est une pièce aussi qui est très très sonore sur le plateau. C'est assez curieux de voir ça, puisqu'on se dit, bon, les quatre saisons de Vivaldi, c'est un peu monument, et hop, souvent parasité entre guillemets, par des sons qui sont produits par les danseurs sur le plateau.
Oui, soit des frappés du sol, soit des cris, ou des paroles.
Pourquoi ?
Ou des rires. Je sais, parce que je voulais vraiment pas que ce soit un truc qu'on regarde derrière une vitre, en fait. Hein. Je voulais pas que ce soit comme ça. Je voulais que ce soit vivant et qu'on sente la vie et que ce soit un peu impur. Hein. C'est-à-dire la musique de Vivaldi, mais un petit peu impur. Hein. Un peu entaché par la vie ou un peu souillé, légèrement souillé, voilà.
Alors, l'inauguration de ce pavillon noir donne donc l'occasion de pouvoir assister à ces quatre saisons. Je crois même que vous avez prévu des représentations supplémentaires le week-end prochain, parce qu'il y avait trop de monde qui voulait voir ça. Et il va y avoir une création aussi pour cette inauguration. Ça va être la clôture, en fait, lundi soir, Fire Sketch, avec Laurent Garnier et Pierre-Alain Hubert.
Oui, donc vous voulez que je vous en parle ?
Oui, bon. Volontiers.
Eh bien, c'est une conjonction de plusieurs événements, donc l'inauguration du pavillon noir, et puis aussi le 23 octobre 1906, Paul Cézanne est décédé. Hein, après, d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il pleut en ce moment, et vous savez que Paul Cézanne, il est mort à la suite d'une. Il était parti peindre dans la montagne Sainte-Victoire autour du 16 ou du 18 octobre. Et il y a eu un violent orage qui s'est abattu et il est rentré à pied depuis l'endroit où il peignait aux abords de la montagne Sainte-Victoire. Et comme il était fragile au niveau santé, il a pris froid, enfin, d'une façon grave, quoi. Et il est décédé des suites d'une pneumonie, enfin un truc consécutif à ça. Voilà. Donc encore la météorologie là.
Mais quand vous dites il pleut en ce moment
Non, mais hier soir par exemple, on répétait dehors à minuit, là, c'était la douche. Hein. C'était vraiment douche, nuit. Ouais.
Donc.
Non, mais je m'égare là. Hein.
Un peu. Donc revenons à Laurent Garnier.
Non, parce que vous m'avez dit qu'il y en avait pour une heure, je me disais il faut...
Oui, on n'est pas tenu de faire une heure, on peut faire 45 minutes si vous pouvez faire.
Donc, alors, non, je reviens sérieusement à vos questions. Donc Cézanne est mort, donc 23 octobre 2006, ça fait 100 ans. Mais comme par hasard, 100 ans plus tard, Cézanne est revenue vraiment, vraiment à la vie chez les Aixois, parce qu'il y a cette rétrospective fabuleuse qu'il y a eu au musée des Granets. Et par coïncidence, le pavillon noir donc, sort de terre, est inauguré. Et donc on voulait faire un hommage à Cézanne. Et pour ça, j'ai pensé à l'oiseau de feu, en fait, le phénix qui renaît de ses cendres. Et donc, on s'est accoquiné avec Pierre-Alain Hubert, qui est un artificier, un poète du feu. Et j'ai demandé à Laurent Garnier de composer, d'écrire une musique autour de l'oiseau de feu de Stravinsky, c'est-à-dire une version un peu d'aujourd'hui, un peu techno de cette thématique-là. Et donc voilà, et ça sera présenté lundi avec les danseurs du programme de formation européen Dance. Que je co-dirige avec William Forsythe, Frédéric Flamand, notre voisin marseillais, et Wayne McGregor, qui vit et travaille à Londres. Et donc, on a constitué cette cellule de formation pour danseurs qui vont danser à cette occasion. Voilà.
Donc, pendant ces 4 jours d'inauguration, toute une série de performances par les chorégraphes et danseurs invités. Et il y a aussi beaucoup de visites guidées qui sont organisées pour que les gens puissent faire connaissance avec ce bâtiment construit par Rudy Ricciotti, prix national de l'architecture cette année, je crois. Hein, oui. Donc, pour nos auditeurs, qui pourrait nous faire une description, en fait, une petite visite guidée au micro, Nicole Saïd, du pavillon noir. Est-ce que vous pouvez nous faire une description, Angelin?
Bah, tu m'aides un peu.
Oui.
Alors vas-y, mets ta bouche près du micro. Voilà. Non, c'est un bâtiment que je trouve moi personnellement sublime. C'est pas. Non, mais ça serait pas pour nous qui serait sublime pareil. Hein. Parce que pour la danse, c'est vraiment idéal. C'est-à-dire que la conception même du bâtiment a été pensée pour la danse. Donc l'idée était de libérer l'espace, qui pour moi est vraiment... Bon, l'espace, c'est vraiment l'écrin du mouvement. Hein. C'est là que s'écrit le mouvement, c'est la page blanche du danseur. Donc l'idée, c'était de libérer l'espace. Alors comment libérer l'espace? C'était de libérer la structure et le squelette de l'intérieur du bâtiment et le mettre à l'extérieur. Donc on est face à un exosquelette qui tient le bâtiment par l'extérieur. Les os sont à l'extérieur du corps, si je puis dire. Donc, et quand on est dans le bâtiment, on a une sensation d'espace extraordinaire, de lumière... Et la lumière traverse le bâtiment et la ville rentre dans le bâtiment. Il y a une sorte d'osmose entre les danseurs, la ville. Et il y a une contamination entre l'urbain et la danse. Et je trouve que c'est très, très beau. En plus, quand on le voit de l'extérieur, il a une densité extrême, une rigueur, une sorte de... C'est un geste architectural très fort. Et quand on est dedans, on a une sensation de douceur extraordinaire.
Il fait un peu contraste, oui, avec les bâtiments qui ont été construits.
Ah oui, je vais pas dire de... Bon, je vais pas être méchant avec l'entourage, mais bon, beaucoup l'ont dit dans la presse déjà, malheureusement, que ce vaisseau, ce pavillon noir flotte sur une mer de banalité architecturale, quoi.
Nicole Saïd, vous voulez rajouter quelques mots sur le pavillon noir, sur son architecture?
Non, je crois qu'Angelin te dit.
Bon, alors je dis
juste... t'avais dit que tu m'aiderais, que tu rajouterais des choses.
Alors je dis juste que Nicole Saïd nous accueille dans son bureau pour cette émission, ce qui est très gentil. Et Christophe Haleb, Sylvain Groux, comment vous le trouvez, vous, ce bâtiment?
Horrible.
Christophe, Sylvain Groux.
Non, moi j'ai envie de dire, par réflexe, je le trouve noir. Je le trouve très noir, mais comme a dit Angelin... si on ose l'approcher, si on ose le pénétrer, une fois qu'on est dedans, il est inondé de lumière, bah là comme il y en a sur le bureau et sur vos notes actuellement. Et pour avoir vécu longtemps ça de l'intérieur, je trouve que c'est vraiment vraiment très à l'image du ballet, des immenses contradictions, des magnifiques contradictions.
Christophe Haleb.
Moi, j'y arrive aujourd'hui, donc
que dire,
je l'ai visité par étapes, en travaux. Et j'aime bien l'idée d'une forme qui va être... comment on habite la forme, surtout. Donc là, il y a plein de gens dedans. Je commence à voir l'aménagement intérieur et la vie à l'extérieur. Donc c'est la pratique et l'usage qui vont en être faits, qui vont donner son sens aussi au bâtiment. Architecturalement, il est très beau. Voilà, c'est un beau geste posé dans la ville. C'est vrai que par rapport à l'environnement, ça contraste et tant mieux, quoi.
David, qui vient de nous rejoindre, David Cola. Tiens, Angelin Prejoka, je parlais d'exosquelette. C'est ton rayon.
Ouais, exactement. Non, bah moi j'ai fait la visite il y a longtemps, donc c'est vrai que je suis venu vendredi pour l'inauguration et j'ai pu visiter un petit peu les finitions, on va dire. Donc c'est vrai, je vais rejoindre. C'est noir, c'est vrai que c'est, enfin moi je dirais, ça donne pas forcément vraiment envie de rentrer parce que c'est vrai, c'est sombre. Mais moi j'aime bien le contraste parce qu'une fois qu'on est à l'intérieur, on est bien. C'est éclairé, il y a beaucoup de lumière qui rentre et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'espace et on se sent bien à l'intérieur en fait.
Tu as déjà présenté
non, aujourd'hui, c'est aujourd'hui et demain.
Aujourd'hui samedi, premières. Je rappelle que cette émission est enregistrée, qu'elle est diffusée dimanche sur Radio Grenouille. D'accord, tu es allé voir le studio quand même.
Oui, quand même.
C'est Mbe Kodja, vous arrivez de
Tunis, Carthage.
J'imagine que ça...
C'est à une heure de vol d'ici.
Et
je me sens vraiment chez moi. Je remercie l'équipe de m'avoir invitée parce que je suis à une heure d'ici et je peux kidnapper une belle aventure que j'espère construire dans 20 ans. Peut-être moi, ça me prendra du temps. Mais ce noir-là, pour moi, il est très proche parce que c'est comme un patio oriental. Le fait qu'il n'y a pas de poutres, je me sens vraiment chez moi. Et les Arabes souvent portent le noir à l'extérieur parce qu'il y a des émeraudes à l'intérieur. Donc ce diamant-là à l'intérieur, et on cache le... En tous les cas, les racines de quelque chose de très vivant. Et le noir est juste un leurre, mais je ne sais pas si Rudy a pensé à ça. Mais pour nous, le noir est une couleur au contraire, très céleste.
Vous avez un lieu de travail, vous, à Carthage ?
Oui, mais aussi à cause de peut-être Nicole et Angelin, parce que moi, je les ai connus à la Biennale de Lyon. On a pratiquement le même âge, hein, mais le fait de venir chez vous dans le Nord, j'apprenais des choses pour kidnapper dans mon pays. Je ne me posais pas de questions avant parce que je m'intéressais qu'à la danse. Jamais je n'ai défendu une femme dans la danse parce que c'était acquis à Tunis. Mais je défendais les garçons parce qu'ils étaient traités d'homosexuels. Par contre, malheureusement, depuis le 11 septembre, et c'est pour ça que je me colle vraiment à la région PACA, en tous les cas, qui est très proche de moi, et je voudrais tout kidnapper d'ici. Et encore merci à leur générosité de s'ouvrir vers le sud, comme pour Kathleen Noël, comme pour moi, comme pour Anne, parce qu'ils ont fait... Ça reste un modèle où on a envie de puiser chez eux de l'énergie pour avoir de la force de combattre chez nous à Tunis, qui est aussi un pays de lumière, mais qui aujourd'hui, l'obscurantisme arrive avec l'intégrisme, avec pas mal de choses, mais à une vitesse grand V. Et sans eux, vraiment, je suis venue ces 3 jours et encore une fois très émue. Et merci pour ce que j'ai vu les 4 saisons, mais même les enfants, les jeunes qui dansent dans la rue pour me donner encore du courage quand je reviens après-demain. Pour encore casser tout, casser les murs et développer des choses. J'essaie de faire une photocopie, pas médiocre, mais j'essaie de prendre de leur énergie, mon énergie, pour faire de Tunis un pavillon blanc. Et comme ça, entre les deux, on sera un pavillon noir et blanc, un pont entre nous.
Dites-nous 2 mots de ce que vous faites à Carthage.
Beaucoup de choses, parce qu'on n'a pas le choix. J'aurais bien rêvé d'être comme Angelin, que chorégraphe et rêver dans mes chorégraphies. Mais comme je vous ai dit, le séisme est là à Tunis. Et malheureusement pour moi, vous me connaissez déjà par le feed.
Un petit peu.
Donc j'ai un festival de documentaires.
Alors pour les fidèles auditeurs de Radio Grenouille qui écoutaient au mois de juillet les programmes qu'on a réalisés en direct du feed, CM accompagnait le film VHS Kaloucha qui a fait l'ouverture.
Parce qu'on a lancé le premier festival de documentaires. Et le festival de documentaires est venu pour aiguiser les regards. Et vraiment changer, avoir un avis sur les choses, parce qu'on commence à ne plus avoir des avis sur les choses. Et la danse est venue vraiment après le 11 septembre. Les visas étaient interdits pour certains de mes danseurs pour venir en France. Et quand le 11 septembre est arrivé, je voyais mes danseurs basculer en mettant leur machin truc, leur voile. Et j'avais très peur. Donc je me suis dit, si l'Europe ne veut pas de nous, je vais ramener l'ailleurs chez nous. Et première compagnie qui a cru dans l'aventure, encore merci Angelin, qui sont venus gratuitement. Avec un voyage bizarre de Hanneb, ils ont pris des taxis pour venir jusqu'à Tunis et ils ont fait l'ouverture du festival avec des compagnies de copains qui sont venus gratuitement pour faire vivre à Tunis pour 15 000 spectateurs jour un festival qui est gratuit. Donc un festival de danse contemporaine et que contemporain pur et dur. Donc on n'est pas parti chercher du public pour faire de la danse orientale pour les attirer. C'est facile. De la danse contemporaine et première invitée était Angelin Préljocage. Et encore merci à cet amour et de beaucoup de générosité. Après, la formation va suivre, donc le festival de documentaires pour aiguiser les regards. Et aujourd'hui, je ne veux plus que mes danseurs tunisiens viennent dans votre pays, parce que je les ai envoyés il y a 10 ans, j'étais contente du savoir-faire de ce pays, sauf qu'ils sont tellement habitués au confort qu'ils sont restés chez vous. Alors aujourd'hui, je ne veux plus. Donc c'est bien, ça sera toujours mes meilleurs ambassadeurs. Ils dansent chez Hella Fatoumi, chez Abou, chez Wim van de Kebus, chez Anne de Mai. Mais aujourd'hui, je veux que mes danseurs, sans être dictateurs, restent aussi à Tunis, pour qu'ils soient des relais, sinon les intégristes prendront notre place. Et donc je viens prendre encore une fois le savoir-faire d'Angelin et des 4 partenaires que je ne connais pas vraiment. Je connais plus la famille d'Angelin et surtout de Nicole. Donc de voler le savoir-faire de dance, de donner à mes danseurs des armes pour pouvoir se battre dans des pays comme chez nous. Parce qu'ici, il y a peut-être en tous les cas, une connaissance de ce métier. Donc, on donne aux artistes le moyen de faire les choses. À Tunis, il ne faut pas savoir faire un plié, un rond de jambe ou écrire ou avoir un concept chorégraphique. Il faut savoir s'armer aussi contre le gouvernement et trouver des moyens pour exister. Et donc, on va essayer de créer une formation. La danse existe à l'image de dance et d'autres écoles, mais aussi un savoir-faire, comment trouver le moyen de faire sortir sa tête dans des pays arabes. Chez moi, il y a 15 danseurs tunisiens. Je ne pouvais pas mettre sur le marché tunisien 15 danseurs chômeurs. Il ne peut y avoir que 5. Donc, à l'idée de dance, encore une fois, donc je copie tout. Hein. Je suis pire que les Chinois. Et donc, j'ai décidé de prendre 2 Libanais, Inch'Allah, en tous les cas, 2 Libanais, 2 Marocains, 2 Algériens, 2 Égyptiens et 2 Maliens, 2 Sénégalais. En tous les cas, 4 pays africains, 4 pays arabes, avec 5 Tunisiens, pour créer le dance arabe. Ça s'appelle Raqs. Et ça sera le centre méditerranéen de danse contemporaine. Et c'est vraiment avec l'amitié et le parrainage et le marrainage et tous les termes, noir ou blanc, d'Angelin. Voilà.
Alors, chaque fois qu'on rencontre Siem, on sent l'énergie qui fait que l'amour. La Tunisie n'a qu'à bien se tenir. Alors, Siem rappelait qu'en Tunisie, c'était un combat de travailler la danse contemporaine. Mais il me semble qu'ici, ça n'a pas été non plus très, très facile d'imaginer ce projet de pavillon noir. Nicole Saïd, ça a mis longtemps quand même. Il y a eu plusieurs fois des ouvertures programmées du pavillon noir, puis reportées, non ?
Oui, mais ça, je pense que ça, il y a toujours des retards dans les travaux. On va oublier ça. Mais c'est vrai que l'idée d'avoir un centre chorégraphique et surtout avec une salle de spectacle, ça, c'est une idée qui a pris un temps fou à être admise par les collectivités. C'est-à-dire que la danse est maintenue quand même dans des lieux où les danseurs, les chorégraphes travaillent, mais des lieux fermés au public. Et c'est ce combat qu'on a mené avec Angelin depuis presque 20 ans, en tout cas 11 ans depuis que nous sommes ici, c'est de faire accepter qu'on puisse avoir aussi une vitrine, une relation directe au public, et donc un théâtre.
Angèle Préljocage, vous dites dans le dossier de presse que c'est un endroit qui a été volé sur le commerce, l'efficacité, et je ne sais plus quoi encore.
Non, mais c'est vrai que dans un monde néolibéral où seul compte le rendement, l'efficacité, le commerce, tout ça, c'est vraiment un acte de piraterie que d'avoir réussi à voler ce bâtiment à cette logique de, comme je dis, du marketing. Etc.
Mais c'est-à-dire qu'il y avait des projets sur ce site
Bah, vous savez bien que de toute façon, vu la parcelle du mètre carré ici, les promoteurs, ils auraient préféré construire n'importe quoi qui va rapporter de l'argent plutôt qu'un centre chorégraphique où on va juste faire des mouvements comme ça, on va rêver. Ça rapporte rien. Par contre,
ça a aussi une économie.
Mais... Bien sûr, mais en même temps, c'est ça, c'est que c'est vraiment, c'est là où je trouve que c'est une victoire de la raison sur la barbarie, ce bâtiment, parce que justement, tout ce néolibéralisme où on pense qu'à faire de l'argent uniquement et où la notion de richesse est sur le pécunier et pas sur l'esprit, sur l'invention, sur la culture, voilà, ça c'est grave, ça c'est la barbarie. Et donc, ce bâtiment, ce pavillon noir, c'est vraiment, c'est ça. On a été des pirates, on l'a volé à ce monde. Et moi, j'invite tous les chorégraphes à faire ça. Il faut arrêter maintenant d'être des mendiants. Ça veut dire, un centre chorégraphique national, c'est quoi ? Ben, on vous donne 2 studios, dans le meilleur des cas, un bureau, une petite salle pour fabriquer des petits costumes. Et point, c'est tout, c'est terminé. Et puis, si
et
vous,
quelques alors, missions à remplir.
Et des missions à remplir. Et après, vous avez terminé votre création et vous faites quoi? Ben, vous allez mendier. Est-ce que tu peux me prêter ton théâtre? Tu vas voir tel directeur de festival. Est-ce que tu peux me programmer? Etc, etc. Donc, moi, vraiment, j'en ai ras-le-bol. J'en ai vraiment ras-le-bol. Et je voudrais que la danse soit plus politique dans son action, dans son réseau. J'aimerais bien qu'on arrête de... j'aimerais bien qu'on se batte, mais pas les uns contre les autres. J'aimerais qu'on se batte tous ensemble contre, justement, tout ce que je disais. Hein. Et si les gens le font, ça, et ben, vous allez voir que la danse va avancer. Parce que, par exemple, si vous prenez le théâtre, hein, les centres dramatiques nationaux, c'est quoi? Au minimum, c'est une salle de spectacle. Ça, c'est la première chose. Si vous dites à un metteur en scène, directeur de centre national, on va vous donner deux studios pour répéter vos pièces, mais il va hurler de rire, il va vous dire d'aller voir ailleurs. Et la danse, par contre, nous, on est là, on joue petit bras, oui, d'accord, merci, voilà. Moi, j'en ai marre de ça, j'en ai vraiment marre, surtout au moment où tout le monde reconnaît, tout le monde convient que la danse est un des arts les plus pointus, les plus inventifs actuellement, qui génère de plus en plus de public, le plus dynamique, et donc vraiment, on le mérite, on le mérite.
On a souvent entendu dire aussi ces dernières années que le renouvellement de la danse contemporaine se passait plutôt au sein des compagnies indépendantes que dans les centres chorégraphiques nationaux.
C'est une question ?
Oui.
Est-ce que vous avez vu les derniers travaux ? Je ne veux pas parler d'Angelin, nous convenons tous qu'il fait un travail extraordinaire. Mais vous avez vu les derniers travaux de Maggie Marin ?
Non.
Umwelt, ben, je vous invite à venir le voir ici. Ou bien sa dernière création, qui est l'histoire de l'humanité en une heure. Venez donc voir ça. Et après, vous me direz si les centres chorégraphiques se renouvellent ou pas.
D'accord. Donc, je me ferai interviewer un peu plus tard par vous. Mais Sylvain Groux et Christophe Alleb, vous pensez quoi? Il y a eu des débats récemment sur les centres chorégraphiques nationaux, au point même d'ailleurs que l'Association des centres chorégraphiques nationaux a commandé une analyse à je ne sais plus... une personne dont j'ai oublié le nom qui vient de sortir un rapport qui s'appelle L'art en présence. Ouais.
Alors moi, j'ai pas lu le rapport, mais ce qu'on pourrait dire, par exemple, pour un peu préciser le paradoxe qui est soulevé là, c'est que le centre chorégraphique, c'est un lieu. Donc déjà, c'est une chose tangible qui est un lieu qui accueille un chorégraphe. Je dirais en résidence, qui a des missions aussi d'accueillir dans l'hospitalité d'autres gens. Donc c'est peut-être de dissocier déjà le bâtiment de l'homme ou de la femme. Et après, il y a évidemment des choses qui se tissent à l'intérieur sur le sensible, sur les expérimentations sensibles, qui sont liées à la différence de chaque direction de lieu dans son appréhension d'un accueil, d'un bâtiment, d'une surface, d'une esthétique aussi. Donc aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un renouvellement dans les centres chorégraphiques et donc il y a aussi une diversité des modalités de vie d'un centre chorégraphique. Et c'est aussi un lieu où je pense qu'on fait l'expérience de la démocratie parce qu'on est confronté tous les jours à mettre en jeu des choses qui sont, comme disait Angelin tout à l'heure, qui sont des prises sur une réalité sociale et politique qui est pleine de contraintes. Et donc peut-être que des lieux comme ça sont aussi la possibilité d'avoir des marges de manœuvre pour produire une économie peut-être plus immatérielle, matérielle, poétique, esthétique, qui est, pour dénominer nature commune, le mouvement, le corps, la danse. Et tout à l'heure, vous parliez de la capacité de la danse à être à la pointe du... si je traduis les mots à la pointe de la création, c'est parce qu'elle a su toujours être perméable et aimantée et aimantable. Depuis le XXe siècle, elle a toujours invité les autres arts à collaborer, à réfléchir, à faire avancer les formes. Et bon, ici, c'est ce qui se passe. Ailleurs, c'est ce qui se passe aussi. Et la danse contemporaine, elle est là. Et le XXIe siècle, avec ce bâtiment, ça résonne. Voilà, maintenant, il faut que ça vive et puis que ça se doit traverser. Voilà.
Sylvain, vous voulez dire un mot ?
Oui, moi j'aurais envie de rajouter que pour énormément de compagnies qui n'ont pas de lieu, qui n'ont pas même pas de studio en fait pour pouvoir travailler, créer, répéter, préparer les spectacles, moi, ce que j'admire, c'est quand je sens, et c'est absolument le cas ici, et depuis que je suis Angelin, c'est absolument ce cas-là, c'est que ce n'est pas parce qu'on a un centre chorégraphique que ça y est, on est arrivé. On est arrivé, puis que maintenant, je ne le lâcherai pas, c'est à moi, ma cassette, mon...
Le confort dont vous parliez, si
oui,
tout à l'heure.
Mais c'est la grande contradiction, c'est que ce confort-là, il est indispensable. C'est-à-dire que... alors, il est indispensable. On peut toujours, comme je l'ai fait depuis 2 ans, eh ben, j'ai pas de studio, j'ai pas de théâtre, eh ben, je vais danser dans la rue. Et puis, je vais faire mes créations. Là, je suis en train de faire une création à l'hôpital. On fait la création dans l'anneau central, devant les gens. Et on n'a pas de studio, eh ben, y a pas de souci. Et on peut faire. La danse, de toute façon, si elle doit sortir, elle se fait à Sarajevo pendant la guerre, dans les camps de concentration. Il y a eu je veux dire, de tout temps et toujours, si la création doit avoir lieu, elle aura lieu. Donc, mais c'est quand même pour le péroné du danseur, pour le tendon, pour le genou, pour les cervicales du danseur, on sait très bien qu'il faut un plancher, on sait très bien qu'il faut... c'est ce confort-là, c'est vraiment du confort de base, mais de gravement de base, que énormément de gens n'appréhendent pas, ne savent pas. Et ça, s'il n'y avait pas eu des chorégraphes... pour mettre en place, motiver cette demande et que des centres chorégraphiques nationaux existent, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Moi, je pense que moi, où je suis très reconnaissant dans la démarche d'Angelin, c'est que je le sens toujours un petit peu mettre le pied à l'étrier. Vraiment dans les premiers, je veux dire, c'est un des premiers à... Faut pas oublier qu'il y a 24 danseurs permanents, c'est-à-dire ils sont, il y a une...
C'est-à-dire 24 CDI.
Mais carrément, c'est-à-dire que moi j'ai été 11 ans, ma retraite, elle va être, je sais très bien qu'elle a 11 ans j'ai 11 ans de fiche de paye comme danseur, c'est pas rien, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Une cinquantaine de, je sais pas, y a qu'à voir là comment les fourmis, comment ça grouille de partout. Tout ça, c'est du plein temps, ça embauche, ça met la culture avec toutes ses lettres de noblesse. Et ça, je trouve ça vraiment très important, ce qu'il vient de dire par rapport au théâtre, d'arriver à faire comprendre, arrêtons de croire que c'est du luxe, c'est normal, ça serait normal, il faudrait. Et du coup, ça a fait moi j'étais là quand il y a eu les discours. Des représentants, oui, ils ont dit que oui, finalement, c'était normal. Et c'est tout ça qu'il faut pousser. Et surtout, ne pas se sentir abouti. Moi, des fois, je suis un peu triste de sentir quelque chose qui s'endort, mais qui se... Ça y est, j'y suis. Et puis alors, bon. Et ça, c'est d'une grande violence pour nous qui sommes à côté, en dessous, je sais pas, à faire notre boulot. Et je crois pas que ça n'est même pas un rapport de qualité. Parce qu'aujourd'hui, ce dont on souffre le plus, c'est d'un pouvoir de visibilité. Comme dire, quand j'entends Angelin, après le jocage, dire « Oui, une fois que j'ai fait ma pièce, et oui, maintenant je vais mendier pour aller dans un théâtre », vous imaginez des Sylvain Groux où ils en sont, quoi. Donc, c'est voilà, tout ça, c'est primordial et je suis... c'est plutôt rassurant que ça...
Mais justement, vous, en tant que compagnie indépendante, qu'est-ce que vous attendez d'un centre chorégraphique national comme le Pavillon Noir ? Qu'est-ce que vous attendez du Pavillon Noir ?
Du partenariat, de l'accompagnement, du non mais c'est ma réponse, hein, c'est
oui,
pas une question, hein,
oui.
de l'accompagnement, c'est-à-dire de moi je suis je considère que je les considère un peu comme mes pères, comme ceux qui ont c'est le grand frère qui est parti avant et qui a pris son appartement à Paris avant moi, quoi, et à qui je vais demander tu crois que cette surface là ça suffit? Ah oui, t'as raison, le frigo, ouais, là par là c'est con, parce qu'avec le c'est ce que disait notre ami de Carthage, de dire mais si ils ont essuyé les plâtres avant nous, donc du coup, et c'est un peu moi ce que je ressens. Par exemple, j'ai essuyé les plâtres au Conservatoire de Paris, j'ai serré la main à Mitterrand, première année de la promo du Conservatoire. De maintenant, quand j'y vais faire des masterclass, je sens bien comment eux nous regardent, je sens ça. Et c'est vrai que là, par rapport à des lieux pareils dont la chorégraphie a besoin, eh bien je me sens vraiment le droit, la possibilité de venir demander conseil, de venir dire tu vois, moi ça, je fais ça, moi je suis heureux de savoir que Nicole peut prendre une matinée dans son emploi du temps de malade sur Paris pour autour d'un café discuter de mes projets et tout, et lui donner envie et sentir que ses yeux brillent et qu'il y a quelque chose à trouver là-dedans, et voilà, c'est ça, c'est moi, je crois que c'est ça, c'est le grand, pour moi c'est... Au niveau psychanalyse, j'essaye de pas dire le père, mais c'est au moins le grand frère, quoi. Moi, Preljo, c'est Angelin, c'est celui que je suis venu voir pour être intermittent et qui m'a passé son survêtement à Champigny pour dire « Bon, allez, vite, enchaîne, il y a un blessé, il faut que tu fasses à sa place. » Ça a commencé comme ça, ça fait 11 ans, une petite quinzaine d'années. Et c'est comme, voilà, pour moi, c'est ça.
Christophe Alem ?
Alors oui, la figure de l'artiste, elle est, Angelin, il est assez protéiforme dans sa façon de procéder, dans la capacité d'accueillir des collaborateurs divers et de construire. Et donc voilà, depuis de nombreuses années, là, il a construit une œuvre assez phénoménale. Et maintenant, le bâtiment. Donc je pense que c'est important qu'il y ait une... comment dire, que ça s'accorde avec une figure humaine et que tu apprennes, une forme de... Je sais pas, en architecture, qu'est-ce que ça pourrait être le terme pour dire de quelque chose qui est cohérent. Voilà, une cohérence dans la ville pour que l'édifice et le corps, ça aille ensemble. Bon, maintenant, moi, qu'est-ce que j'attends d'un centre chorégraphique celui-là, en particulier, non, je dirais des centres chorégraphiques. Pour moi, c'est un dispositif, le centre chorégraphique. Donc, c'est un dispositif qui doit être traversé. Et donc, c'est un genre à part. Donc, c'est la question du genre, c'est aussi la question de la mobilité, d'être finalement pas assigné à résidence, mais d'être fluide et mobile dans cet espace-là et sur un territoire. En France, on est équipé de plein de centres chorégraphiques. Mais je dirais, c'est un pôle.
C'est 19, hein, c'est pas énorme.
Non,
quand même.
Mais il pourrait y en avoir d'autres. Mais il y a d'autres, comment dire, ça s'articule avec d'autres lieux. C'est-à-dire qu'il y a les centres
c'est
chorégraphiques.
C'est pas le 20e celui-là ?
Non.
C'est le 19e ?
Oui, oui.
19e.
Mais le centre chorégraphique, excuse-moi Christophe, c'est un label.
C'est un label.
Donc il y a 19 labels en France.
Il y en avait 18 en 1985.
Voilà.
Ça c'est pas beaucoup.
Exactement. Et d'ailleurs, je pense que effectivement, il y en a plus de 17.
Alors,
mais il y a un renouvellement des directions aussi maintenant. J'étais à Caen. Moi, j'arrive de Caen. J'ai passé 3 semaines au CCN de Caen. Je suis arrivé ce matin. Donc, c'est Eric Lamoureux et La Fatoumi qui sont depuis 2 ans directeurs du centre. Donc, du coup, voilà, c'est une nouvelle direction. Donc, c'est une nouvelle aventure. Et ici, c'est pareil. Ça va évidemment transformer aussi la manière, je pense, de travailler du ballet et d'avoir d'autres façons de gérer l'espace, qui est un des fondamentaux de la danse, et le temps.
Alors,
on parle de luxe. Hein.
Ouais, alors, David Cola, toi, tu viens du hip-hop. Alors, en parlant de luxe, c'est vrai qu'on sait que les danseurs du hip-hop se sont fracassés, les premiers danseurs de hip-hop
sur les cartons, sur le
béton, tout ça. Que représente pour toi un centre chorégraphique national ?
C'est exactement ce qu'il disait. C'est au niveau des blessures, on temporise. C'est vrai que nous, mis à part le côté acrobatique, et c'est vrai que le côté phase qui est violent pour le corps, même si nous, on a été les premiers à faire les mouvements dans la rue, on sait très bien que maintenant, on travaille différemment. Parce que dans le corps, on sait très bien que quand on avance dans l'âge, on ne peut plus faire les mêmes choses et je ne pourrais plus faire pareil dans la rue. Voilà. Et c'est un passage, pour le hip-hop, c'est important. C'est l'école de la rue pour le hip-hop. Mais parce que ça apporte justement... à développer de l'imagination, à être à l'aise, c'est vraiment né de là en fait. Et pour moi, dans la transmission et même quand je travaille, c'est important le cercle, l'esprit de la rue, tout ça, c'est important. Maintenant, pour passer à la création, le hip-hop c'est jeune, ça fait pas si longtemps que ça que on est passé à ça. Pour nous, c'est une aubaine. Enfin, je veux dire, de travailler dans des conditions comme ça, moi c'est pareil. Je répète dehors ou dans les studios ou voilà. Après plus on a des conditions qui font qu'on peut aller loin dans notre travail et tout est mis à disposition pour qu'on arrive vraiment à proposer et que dire que le hip-hop aussi c'est une culture et qu'on peut faire des choses comme les autres disciplines, c'est bon pour nous et c'est bon pour la danse.
Tu as des partenariats avec des centres chorégraphiques nationaux ou tu as déjà eu l'occasion de participer à ce genre de choses avec Franck Delouis ?
Avec Franck, ouais. Alors avec Franck, sur le projet des capteurs, on a travaillé chez Mathilde Monnier à Montpellier. Après, eux, ils ont continué. Donc moi, comme je n'ai pas suivi sur la suite du projet sur les 1 heure, je sais qu'ils ont été à Belfort. Je viens d'apprendre qu'il y a 19 centres chorégraphiques. Moi, je ne savais même pas. Donc oui, ils ont travaillé. Mais il y a plusieurs compagnies comme ça qui ont la chance aussi de travailler avec des centres chorégraphiques. Je sais que Hors-Série, Amide, sur Bordeaux, ils travaillent aussi. Bon, voilà, il y a des centres qui accueillent et qui ont envie aussi. Et c'est là où moi, je remercie et je dis, voilà, c'est un coup de pouce pour le hip-hop, pour dire, ben, on n'est pas que des danseurs à la casquette qui tournent sur la tête. Parce que ce cliché, ça fait 20 ans qu'on me le dit et je rappe. Oh non, je rappe pas, je danse. Donc voilà, c'est aussi pour moi, à un moment donné, à défendre des choses et des valeurs. Je suis danseur, artiste, chorégraphe, autant que n'importe quel danseur. Donc on défend les mêmes choses, même si on n'est pas dans le même style. Donc voilà.
Angela et Nicole, dans les disciplines artistiques, en fait, dès qu'il y a une grosse institution qui se crée, c'est toujours les mêmes questions, c'est-à-dire pompe à subvention, pas de partage de l'outil, ça va assécher le terrain, tout ça. Comment vous vous situez par rapport à ça, par rapport au partage de l'outil, par rapport à tout ce qui vient d'être évoqué là, en fait, par ces trois...
Alors, moi, je ne vais pas parler en général des centres chorégraphiques, je vais parler de nous. Donc, page 21 du dossier de presse, vous pourrez regarder. Le budget de la compagnie, c'est 4,5 millions, je crois. Je vais aller à la page 21, si vous permettez. Parce que... voilà. Excusez-moi. Voilà. Alors, le budget, c'est 4,5 millions d'euros. Hein. Si je regarde les subventions, il y a 1,3 million de l'État. Il y a la région qui nous donne 488 000 euros. Il y a le département 235 000. La communauté du Pays d'Aix 305 000. Et la ville 200 000. Voilà. Nous, donc il manque beaucoup d'argent là. Hein. Ça veut dire si vous additionnez tout ça, il manque beaucoup d'argent. Et nous, on ramène sur la table 1,9 million euros. Ça veut dire que nous, tous les ans, on met ça sur la table. On dit voilà, ça c'est notre contribution à ce centre chorégraphique. Donc c'est tout ça pour dire qu'avec l'argent, moi, je suis très tranquille. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas l'impression que je suis une pompe Afrique parce que moi, j'en mets plus de la moitié sur la table.
Hein. Le premier subventionnaire du ballet.
Voilà. Donc ça, il faut que ce soit très, très clair de la part, que tout le monde soit bien conscient de ça. Et c'est avec ces recettes propres-là, de la moitié du budget, c'est-à-dire 1,9 million euros chaque année, qu'on arrive à développer des activités dans centre chorégraphique et d'inviter des compagnies en résidence, de mettre à disposition nos équipes qui sont payées, bien sûr, par nous pour les aider à monter leur spectacle, etc. Alors donc, Pompe Afrique, je ne sais pas quelle Afrique ou quel fric, mais je veux dire, je suis ma propre Pompe Afrique, c'est-à-dire que je me pompe mon argent, je le trouve pour le mettre sur la table et pour participer à la vie et au développement de ce centre chorégraphique. Voilà.
Sur le partage de l'outil, sur quelle modalité vous envisagez de mettre cet outil au service de la vie chorégraphique?
C'est là, hein, évidemment, où ça fait toujours des histoires, parce que celui qui n'est pas, qu'on n'invite pas, bah, il fait la gueule, il nous traite de salauds, de pompe Afrique. Hein, mais on ne peut pas, je veux dire, c'est évident qu'on ne peut pas accueillir tous les chorégraphes, tous les gens qui font des choses. Alors c'est regrettable, hein, mais à un moment, il faut faire des choix, et la vie est faite de choix. C'est comme ça qu'on avance aussi. C'est
donc,
donc nous, on fait des choix artistiques. Moi, je crois que ce qui est important aussi bien pour la vie artistique du centre, du pavillon noir, que pour le public en général, c'est d'essayer de garder un niveau d'exigence de qualité, de niveau d'exigence artistique. Et c'est ça aussi qui fait que le truc reste vivant et je dirais, interactif avec un public, avec des amateurs, au sens d'aimer, hein, amateur qui vient d'aimer la danse et l'art. Et donc, évidemment, c'est ça notre paramètre, c'est d'essayer de garder une exigence artistique et puis une qualité de travail.
Et une grande diversité aussi.
Et une grande diversité.
On ne veut absolument pas s'enfermer, soit dans la non-danse, soit dans la danse...
Diversité d'esthétique, vous voulez dire?
Oui, diversité d'esthétique. Ouais. C'est pour nous, c'est essentiel. C'est vrai qu'on aime beaucoup de choses qui n'ont rien à voir entre elles.
En plus, comme on est deux à diriger cette petite fabrique.
Ça se passe comment entre vous deux, alors? Qui fait quoi?
Bah, Nicole, elle fait tout, moi je fais le reste.
On rejoint le confort, alors.
non, mais moi je suis super heureux parce que depuis 20 ans que Nicole est auprès de moi, elle fait beaucoup de choses. Elle fait des choses qui sont souvent considérées comme le sale boulot, le travail de l'ombre. Et là, vraiment, je voudrais lui rendre hommage. Parce que sans elle, je n'aurais pas eu cette espèce de liberté d'esprit, cet espace dans ma tête pour faire ce que j'ai fait. Et c'est vraiment un échange entre nous, quoi. Elle me donne l'espace. Elle me donne l'espace mental. Moi, j'utilise l'espace réel pour faire des choses. Et si elle ne me donnait pas l'espace mental, je crois que je n'aurais pas pu faire ça. Voilà.
Oui, Christophe,
tu veux... Peut-être juste pour sortir des postures binaires là, de nanti, précarité, donc les gens qui ont les espaces, les gens qui sont dans la rue. Bon. Peut-être que dans un... En tout cas, dans ce centre chorégraphique, il y a la spécificité d'avoir un théâtre et des lieux, des studios. Peut-être qu'il y a des... ça permet aussi d'accueillir différentes étapes d'un travail. C'est-à-dire qu'un centre chorégraphique, s'il ne peut pas répondre à tout, pour tous les chorégraphes, à un moment donné d'un processus de création, soit en amont, il peut travailler sur une recherche de matière et de, voilà, d'écriture. Les chorégraphes peuvent aussi aller chercher ailleurs, dans d'autres lieux, ces espaces de préfabrication. Et puis ensuite, ici, il y a un théâtre, donc il y a un autre moment de visibilité. Mais bon, en effet, il est opaque, donc il y a peut-être la visibilité, puis il y a aussi le travail qui se fait en souterrain. Et c'est articuler les deux. Et donc c'est aussi, voilà, c'est après le choix d'aller dehors. Moi, je me souviens avec Angevin, dans les débuts des années 80, au milieu, on avait fait une pièce qui s'appelait « Le petit napperon bouge ». C'est donc, je sais pas, je pense à ça, en même temps, je pense au loup. Donc, et le loup, ça me fait penser aux trois petits cochons aussi. Donc voilà, on se réfugie dans des maisons en paille, en bois et en pierre. Bon, celle-là, elle est en pierre. Donc du coup, dehors, ça peut souffler. On peut aussi venir squatter le lieu. Quand je dis squatter, c'est-à-dire on peut venir s'y poser. Et puis, à moins qu'il y ait une météorite subsonique qui s'explose sur le toit, a priori, ça devrait résister. Donc après, on verra. Mais après, qui est le loup à l'extérieur, ça, c'est un autre débat.
Alors, tant qu'on est sur les mises au point, un mot du Festival Danse à Aix. Il y a eu une polémique assez vive autour du pavillon noir du Festival Danse à Aix qui a disparu l'année dernière. Vous avez répondu par une lettre, je crois, à la presse. Mais bon, une mise au point là-dessus. Le Festival Danse à Aix, est-ce que c'est le ballet Preljokage qui va le remettre en œuvre à Aix, ou est-ce qu'il a disparu? Est-ce que vous avez les subventions qui allaient à Danse à Aix? Est-ce que c'est vous qui les avez maintenant?
Voilà. Non. Alors justement, ça c'est bien de le dire, mais enfin je l'ai déjà dit 100 fois, donc c'est pas grave, je peux le répéter. Il n'y a aucun lien de cause à effet, aucune relation quelconque de conséquence entre la disparition de Danse à Aix, l'émergence du pavillon noir et la programmation qui a lieu. Comme je vous ai dit, on trouve beaucoup d'argent, on essaye d'en trouver beaucoup, et avec cet argent, on essaye de faire ce qu'on a fait déjà pendant des années, alors même que Danse à Aix existait. Donc c'est juste pour vous montrer qu'il y a... objectivement, c'était déjà... On faisait déjà des choses alors que Danse à Aix existait. Donc vous voyez qu'on pouvait le faire, on le faisait. Donc juste là, on continue, c'est tout. Et Danse à Aix a disparu, mais ça, c'est pas lié. Et par ailleurs, moi, j'aurais... A priori, j'étais pas contre prendre le festival de Danse à Aix. Hein. Je crois qu'on a des ambitions, ça c'est vrai. Alors ça peut déranger des gens, mais et puis on est prêt à assumer certaines missions. Donc éventuellement, on était prêt à le faire, mais pas dans n'importe quelles conditions. Et ce qu'on nous avait proposé à l'époque, c'était une partie de l'argent et puis débrouillez-vous pour faire quelque chose de mieux. Alors avec pratiquement la moitié de l'argent, faire beaucoup mieux que les autres, c'est vachement difficile. Donc moi, j'ai préféré refuser. La seule chose que j'ai proposée, c'est que les tutelles, donc l'État, la région, le département, la ville, la CPA, se retournent autour d'une table et définissent qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent? Est-ce qu'ils veulent maintenir ce festival? Est-ce qu'ils veulent en faire un? Et si oui, quel est leur désir? Et s'ils ont quelqu'un à qui ils ont envie de confier ça, qu'ils le fassent. Mais voilà. Alors, ils ne se sont pas retrouvés et chacun a repris ses billes. Et puis voilà. Donc, la situation, elle est comme ça. C'est-à-dire que maintenant, il faut aller interroger les gens et leur demander où est l'argent, qu'est-ce que vous en avez fait, éventuellement, si c'est ça la question.
Plus largement, quel est votre regard sur la situation chorégraphique en PACA?
Je pense que c'est une région très, très vivace en termes de recherche, de travail. Je crois qu'il y a beaucoup de compagnies, c'est très vivant. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, je trouve que ça manque totalement de corporatisme dans le sens noble du terme, c'est-à-dire de se réunir ensemble.
Dans le sens syndicat ?
Non, pas dans le sens, pas dans le sens syndicat, dans le sens de se battre ensemble contre le véritable ennemi, comme disait Christophe. Où est le loup? Qui est le loup? Le loup, c'est pas toujours celui qu'on croit. Et je pense que les gens perdent beaucoup d'énergie à se critiquer les uns les autres, à se détester, à se battre les uns contre les autres. Et s'il y avait un peu plus de sensation de faire le même métier à des niveaux différents, parce que tout le monde n'est pas pareil, il ne faut pas rêver non plus, et ben peut-être que ça aiderait la danse à s'élever encore plus haut et à avancer aussi au sens politique, au sens social. Comme on disait, c'est un truc aussi qu'il faut défendre, la notion du métier de danseur. Alors, on peut dire, oui, il a de l'argent, ou, enfin tout ce qu'on peut dire, mais en même temps, il y a 24 postes de danseurs qui n'existaient pas avant. Avant que je fonde la compagnie avec Nicole, il n'y avait pas 24 postes de danseurs contemporains. Hein, c'est des salaires et voilà, ça existe. C'est-à-dire que voilà, enfin, je suis un peu paysan, je suis désolé, mais c'est mon truc, ça, c'est la terre, la nourriture, comment je vais nourrir mes gosses, etc. Et donc moi, je suis fier, vraiment, je suis fier de donner des emplois à des danseurs contemporains, 24. Puis en plus, je pense à tous les gens qui travaillent autour de nous. Et en tout,
c'est une équipe de une soixantaine de personnes.
61 personnes, voilà, je suis désolé de le dire.
Tu peux aussi être fier de la façon dont tu as fait partir ceux qui voulaient partir et comment tu les as, comment tu leur as permis.
Oui, enfin, c'est essayer d'aider les gens après quand ils nous ont quittés ou de préparer la reconversion. Il y a beaucoup de danseurs pendant même leur activité dans le ballet, à qui on donnait la possibilité de parfaire leur formation pour, si, quand ils quittent, qu'ils puissent enchaîner avec une autre, soit une autre histoire, une autre voie, une autre profession. Voilà.
Alors le Pavillon Noir s'élève à Aix entre la Cité du Livre et le futur Grand Théâtre de Provence. Donc ça fait un site, une sorte de culturopole, comme disait je ne sais plus qui à Marseille. Quel est l'intérêt pour vous de vous retrouver entre une Cité du Livre et un futur Grand Théâtre de Provence?
L'intérêt, c'est une synergie géographique et puis et de collaboration avec tous ces lieux de culture. Quand même.
C'est-à-dire, il peut se passer quoi avec
On a été hébergés pendant des années, pendant 10 ans à la Cité. Par la Cité du Livre, et ça je remercie les différents directeurs qui nous ont soutenus. On continue d'établir des relations, essayer d'organiser des activités ensemble, des thématiques, travailler sur des projets.
Il y a un projet de site ou c'est
De site, c'est-à-dire
c'est-à-dire de l'ensemble du site
qui... Oui, je crois qu'enfin les gens comprennent bien que là, tout à coup, il y a une sorte de... de synergie.
Il y a eu une volonté, voilà, de toute façon, de créer ici, entre la grande salle de spectacle, le centre chorégraphique et la Cité du Livre, un pôle culturel. Il y avait même aussi un projet de cinéma qui a été abandonné, en tout cas momentanément. Donc il y a eu vraiment une volonté d'en faire un quartier culturel à proximité du centre.
Il y a aussi dans cette cartographie dont tu parles avec les nouveaux bâtiments qui sont en train de pousser, il y a un autre endroit qui est un autre point d'ancrage, pas clandestin, mais excentré, c'est le 3 Bicef, qui est un endroit particulier parce qu'il est dans un hôpital,
pas très loin,
dans un hôpital psychiatrique. Et c'est, je pense que après ça s'agrandit avec des cercles et du coup ça englobe aussi ça, parce que c'est un lieu qui permet à un autre endroit des chorégraphes de travailler dans un temps qui est différent que celui forcément du centre chorégraphique, qui a aussi d'autres, un autre emploi du temps, une autre occupation de l'espace. Mais c'est comment la combinatoire de tout ça va faire que le partenariat va fonctionner et comment les artistes sont eux-mêmes des agents de mise en relation des espaces, d'un espace à un autre espace. Comment ils sont mobiles pour trouver les moyens d'articuler, après, au pouvoir public de ne pas déshabiller l'un pour habiller l'autre, mais de faire que les choses s'équilibrent et que tout le monde puisse le mieux vivre. Alors ça, c'est, on va dire, c'est en 2007 peut-être qu'il faut le...
Moi, je finirai en disant que c'est carrément se rendre indispensable. Au fur et à mesure, rendre la nécessité absolument primordiale et d'être obligatoirement là.
Merci beaucoup à vous cinq d'avoir participé à cette discussion. Donc je rappelle donc qu'on était en compagnie d'Angelin Preljocage, de Nicole Saïd, de Sylvain Groux, de Christophe Aleb, de David Cola et de Siem Bekodja qui nous a quittés, là, qui avait des rendez-vous à l'occasion de l'inauguration du pavillon noir qui a commencé vendredi et qui se déroule jusqu'à lundi soir. Lundi soir, la clôture avec Fire Sketch, la création d'Angelin Preljocage avec mardi soir, pardon.
Lundi et mardi,
voilà. La création d'Angelin Preljocage avec Pierre-Alain Hubert et Laurent Garnier en hommage à Cézanne. Et tout ce dimanche après-midi et tout lundi, les interventions. Lundi aussi, les interventions des. Non, tout ce dimanche après-midi encore pour voir les interventions, bah, notamment de David Cola, de Christophe Aleb et de Sylvain Groux. Merci.